Vous écoutez, on lit pour vous.
La solution pour réduire le stress au travail existe. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 7 janvier 2024 dans la presse. Pour la majorité des travailleurs, la fin des vacances marque l'inévitable retour du stress. Des journées trop remplies, des messageries qui débordent. Est-ce une fatalité? Pas si on écoute la science. Les patrons se laisseront-ils convaincre? Discussion stimulante avec la neuroscientifique Sonia Lupien. Sonia Lupien s'est donné une mission très noble, ne pas laisser se perdre toutes les connaissances sur le stress dont déborde son cerveau avant de mourir. Chanceux que nous sommes, la neuroscientifique excelle à captiver l'intérêt grâce à un sens développé de la formule et à sa volonté évidente de vulgariser la recherche. Son plus récent livre, portant sur le stress relié au travail, en est l'illustration manifeste. La brique a beau compter 507 pages et 73 chapitres, elle se dévore encore plus vite qu'un bon roman. Que l'on s'intéresse au fonctionnement du cerveau, à la productivité, à l'histoire, à la vision des patrons, aux effets du télétravail, à la façon dont les bureaux sont conçus, aux impacts de la technologie ou à tout cela à la fois, Sonia Lupien nourrit notre curiosité avec une foule d'exemples captivants. On réalise bien vite en lisant « Le stress au travail » versus le stress du travail aux éditions Va savoir, que la science s'intéresse depuis longtemps à la main-d'œuvre et à sa matière grise. Or, l'information ne semble pas s'être rendue aux employeurs. Sinon, comment expliquer qu'ils continuent de répéter les mêmes erreurs qui stressent les travailleurs? C'est la chose qui m'a le plus frustré dans ma vie. M'a confié Sonia Lupien. C'est pour ça que j'ai commencé à faire beaucoup de transferts de connaissances. Parce que moi, ce qui me fascinait le plus, c'est que ce sont les impôts des travailleurs qui payent nos études, mais qu'il est très rare que le gouvernement ou d'autres employeurs viennent nous demander si ce qu'on a trouvé peut servir à quelque chose. Le résultat tragique de ce manque de diffusion de l'information est une société dans laquelle l'épuisement professionnel, l'angoisse et la dépression sont omniprésents. Chaque semaine, 500 000 Canadiens s'absentent du travail pour cause de troubles mentaux liés au stress. Trop souvent, cela se répercute sur des enfants qui absorbent ce stress comme des éponges, ce qui n'est pas sans conséquence. C'est d'ailleurs pour les petits proutes que la chercheuse souhaite tant faire diminuer le niveau de stress des adultes. Avec la façon dont on demande à notre cerveau de travailler, on l'a saturé. On n'ira pas plus loin que ça. C'est ça qui a créé la surcharge mentale, estime Sonia Lupien. L'organisation actuelle du travail est en cause, mais elle ne blâme pas les entreprises et leurs patrons. La chercheuse de l'Université de Montréal sait trop bien qu'en science, l'implantation, c'est-à-dire le transfert des connaissances pour qu'elles servent à quelque chose, est toujours un défi. L'accès aux études scientifiques n'est pas gratuit, déplore-t-elle. Il faut savoir où chercher et être en mesure de déchiffrer des textes parfois indigestes. Les espaces de travail sans cloison entre les employés sont l'un des meilleurs exemples de ce phénomène. Même s'il est prouvé scientifiquement que ce type d'aménagement est néfaste à maintes égards, il continue d'être adopté par les entreprises. « Je me souviens quand j'ai vu cette mode arriver », me raconte Sonia Lupien. « Je me suis dit qu'ils allaient diminuer la performance de 20% en augmentant le stress. C'était sûr et certain. » Parce que c'est très, très mal connaître le cerveau que penser que des humains peuvent travailler comme ça sans avoir une attention fragmentée et le stress qui vient avec. Quand on est constamment dérangé par les courriels, les collègues, les messages sur Slack, les notifications des réseaux sociaux, le bruit, les textos, les rappels Outlook et quoi d'autre encore, Notre attention est fragmentée. C'est ce qui fait bondir notre stress et chuter notre productivité, puisque chaque interruption nous fait perdre un temps fou. Bonne nouvelle, l'antidote au stress existe. Pour s'apaiser, le cerveau a besoin de se concentrer sur une seule tâche et d'en venir à bout. Vous pouvez désherber le potager, jouer au sudoku ou rédiger un plan stratégique, ça n'a pas d'importance. Quand on progresse, le cerveau tripe, résume Sonia Lupien. C'est ce qu'on appelle le travail en profondeur ou l'engagement cognitif. Cet état est apaisant, mais une étude a démontré que ceux qui passent la journée devant un ordinateur ne travaillent en profondeur que 72 minutes par jour. On ne peut donc pas s'étonner de l'épidémie de stress qui nous afflige. Le malheureux paradoxe, c'est que ce travail en profondeur n'est pas celui qui nous attire instinctivement. L'humain n'aime pas penser. C'est dur, explique Sonia Lupien. En plus, patrons et collègues valorisent les employés qui répondent à tous leurs messages dans un temps record. Les indicateurs de performance de notre siècle n'incitent hélas personne à fermer le Wi-Fi ou les notifications des heures durant. Vous écoutez, la solution pour réduire le stress au travail existe. Un texte de Marie-Ève Fournier paru le 7 janvier 2024 dans la presse. C'est exactement pour cela que le télétravail ne nous a pas rendus aussi zen qu'un professeur de yoga, malgré ce qu'on avait prédit. Certes, au début, rester en pyjama les cheveux sales toute la journée et partir des brassées de lavage entre deux rencontres Teams semblait la solution miracle pour éliminer le stress lié au travail. Mais est-on plus concentré sur nos tâches qu'avant? Est-on moins interrompu à tout bout de champ? Pas du tout, constate Sonia Lupien. On doit même se taper des rencontres virtuelles qui épuisent notre cerveau plus ou moins apte à décoder le non-verbal derrière l'écran. Pour revenir à un niveau de stress plus acceptable, moins dommageable pour notre santé mentale et physique et plus conforme aux attentes des jeunes travailleurs, la scientifique propose carrément de réorganiser les semaines de travail. Certaines journées à la maison devraient être consacrées au travail en profondeur, tandis que celles au bureau serviraient à tenir des réunions, discuter avec les collègues et répondre aux courriels. Un employeur pourrait aussi réorganiser les journées autrement, avec des blocs fixes pendant lesquels les communications sont interdites et les serveurs éteints. Le rêve, non. Il n'y a pas de formule magique universelle. L'important est de faire des essais et d'amener les changements de façon progressive pour laisser aux patrons comme aux employés le temps de s'y habituer. Pour son livre, Sonia Lupien a lu pas moins de 840 études scientifiques. Elle en cite la moitié, toujours de manière très accessible et accrocheuse. Ce travail de moine lui a demandé 3 étés de travail. 7 jours par semaine, 12 heures par jour, des périodes intenses pendant lesquelles elle a testé le congé de courriel en activant un message d'absence. Elle peut donc témoigner personnellement des bienfaits de la méthode qu'elle suggère. Il va falloir faire un changement majeur avec des porteurs de ballons dans les entreprises. Ça prend une détermination venant d'en haut qui va être sans faille et une réorganisation énorme du travail du gestionnaire. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais au moins, les écrits seront là. Vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas, hein? Le message de 507 pages est non seulement limpide, mais nécessaire et très tentant. Qui est Sonia Lupien? Sonia Lupien étudie le mécanisme du stress, son effet sur la performance et la mémoire depuis 3 décennies. En plus de faire de la recherche, elle a écrit 3 livres, donne des conférences et diffuse souvent ses connaissances dans les médias. Titulaire d'un doctorat en neurosciences de l'Université de Montréal, la chercheuse de 58 ans a aussi fait des études postdoctorales à l'Université de Californie à San Diego et à l'Université Rockefeller de New York. Fondatrice et directrice du Centre d'études sur le stress humain, CESH, de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, elle est professeure titulaire au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. De 2017 à 2020, elle a été présidente de l'International Society of Psychoneuroendocrinology, ISPNE. D'autres faits scientifiques sur le stress. Le courriel fait des ravages. C'est une arme de destruction massive du bien-être des travailleurs. On passe des heures à lire nos messages, à y répondre et à les classer. On doit aussi attendre des réponses. Cette gestion nous donne un sentiment d'efficacité, mais nuit à notre productivité, soit au temps consacré à la création de nouvelles informations. Le fait qu'il s'agisse d'un mode de communication asynchrone, contrairement au téléphone où l'échange d'informations est instantané, accentue le stress. Les femmes encore plus stressées. Le travail ne stresse pas davantage les femmes que les hommes, mais dès que les couples mettent le pied dans la maison, c'est autre chose. Le niveau de stress des femmes grimpe alors en flèche à cause de l'organisation familiale, souper, courses, enfants. En outre, les proches aidantes sont le plus souvent des femmes. Tout ce stress alimenté par la sphère personnelle les suit forcément au bureau, ce qui devrait encourager les employeurs à être accommodants. La solution du travail personnalisé. Pour réduire le stress au travail, Sonia Lupien suggère aux entreprises d'embrasser le travail personnalisé, un modèle qui permet à chaque employé de moduler son horaire en présentiel et en télétravail, au gré de sa situation personnelle au fil des années. Les besoins ne sont pas les mêmes à 24 ans, lorsqu'on a deux jeunes enfants et à l'aube de la retraite. Pour éviter le sentiment d'injustice, une entreprise pourrait suggérer le travail personnalisé et procéder à un référendum. La pression sur les patrons. Les gestionnaires seront très stressés dans les prochaines années, prédit la chercheuse, car le monde du travail est en train de changer et chaque transition est un stresseur. Ils devront modifier les indicateurs de performance, gérer le télétravail, les horaires hybrides, éviter le plus possible le sentiment d'injustice. La transition est inévitable, car les jeunes ne vont pas rester dans les entreprises qui ne prennent pas soin de leur santé mentale. C'était « La solution pour réduire le stress au travail existe », un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 7 janvier 2024 dans la presse.
Le phénomène ChatGPT, l'intelligence artificielle du futur. Un texte de Pascal Forget, paru en mai 2023 dans le magazine Bel Âge. ChatGPT fait beaucoup jaser depuis son apparition il y a quelques mois, soulevant de nombreuses questions quant à son impact dans la société et son utilisation au quotidien. Tour d'horizon pour y voir plus clair. C'est quoi au juste? ChatGPT est un programme développé par OpenAI et Microsoft avec lequel on peut communiquer comme s'il s'agissait d'un humain. Il suffit de lui poser une question pour obtenir une réponse écrite personnalisée. Le truc, c'est l'utilisation d'une intelligence artificielle, IA, qu'on dit générative, qui crée du texte sur demande. C'est aussi un assistant conversationnel à qui on peut demander de préciser une réponse. Que peut-il écrire? Des textes descriptifs, des recettes, des chansons, des poèmes, etc. en français, anglais, espagnol, italien, latin, allemand, russe, japonais et une foule d'autres langues, puisque le programme a appris à rédiger presque comme nous, en analysant des millions de textes. Mais encore, il peut servir d'assistant pour rechercher des informations sur un sujet donné, ainsi que réviser et traduire des textes plus rapidement. Les limites de son QI. Certaines réponses de ChatGPT pourront parfois sembler bizarres, et pour cause, puisqu'il ne sait rien. Il est aussi fiable que l'information qu'il trouve sur Internet. De plus, ses réponses sont basées sur des modèles statistiques. Il pourrait donc fournir des réponses remplies d'erreurs factuelles, même pour des questions simples. Il faut soigneusement valider les réponses avec des sources fiables. De plus, les connaissances de ChatGPT sur la période après 2021 sont limitées. Il pourrait donc tout ignorer d'événements récents. Pratique, mais n'importe qui pourrait choisir une IA générative pour écrire gratuitement des textes plutôt que d'embaucher des rédacteurs ou des journalistes. Ces derniers s'inquiètent d'ailleurs de la qualité de l'information obtenue avec ChatGPT. Certains médias peu scrupuleux l'ont déjà utilisé pour écrire des articles entiers. Les enseignants dans les écoles, quant à eux, s'interrogent à savoir qui est l'auteur d'un travail scolaire, l'étudiant ou ChatGPT. Pour distinguer l'humain de la machine, des entreprises comme Draft & Goal, Detector.dng.ai, se spécialisent dans la détection de textes composés par des IA génératives. Mais ce n'est pas facile. À chaque mise à jour, l'IA générative s'améliore et devient plus difficile à repérer. D'autres cerveaux à venir. ChatGPT aura bientôt des concurrents, dont Bard, développé par Google, qui sera intégré dans son moteur de recherche. D'autres entreprises développent aussi leur propre version. Il existe à l'heure actuelle des systèmes comme Crayon, crayon.com, gratuit, qui utilise l'IA générative pour dessiner une image qu'on lui décrit. Google travaille aussi sur un outil qui génère des pièces musicales complètes à partir de quelques mots. La création de vidéos par l'IA est également possible, même si les résultats ne sont pas pour l'instant aussi réalistes qu'avec des images ou du texte. Bref, de plus en plus, on verra dans tous les domaines des IA génératives s'ajouter à plusieurs sites, applications et services au fil des prochaines années. À votre tour de l'essayer. Il suffit de se rendre sur chat.openai.com et de s'inscrire. Le site est en anglais, mais on peut lui demander en français ou dans une autre langue d'expliquer pourquoi le ciel est bleu, de rédiger une intrigue policière, une blague sur les chats ou une recette de gâteau au chocolat sans gluten pour 6 personnes. Amusant. Il faut éviter toutefois de partager des informations personnelles dans nos questions, puisque les données sont utilisées pour améliorer les réponses du système. Combien ça coûte? C'est gratuit. Il n'y a qu'à créer un compte. Pour avoir des réponses plus rapidement en période de pointe, on propose un abonnement à 20 $ par mois. À noter qu'il n'existe pas d'application officielle de ChatGPT. Plusieurs applications douteuses, avec un logo similaire à celui de ChatGPT, tentent de faire croire qu'elles sont légitimes, donc à éviter. C'était le phénomène ChatGPT, l'intelligence artificielle du futur, un texte de Pascal Forget, paru en mai 2023 dans le magazine Bel Âge.
Marie-Cécile Abrèche, la rockeuse devenue maman hélicoptère, une entrevue réalisée par Catherine Genet, parue le 15 août 2023 dans le magazine Nouveau Projet 24. Elle a déménagé dans un autre décor, troquant les ruelles de la ville pour les piscines hors terre de la banlieue. Mais au fond, l'écrivaine n'a pas changé. Dans ses écrits comme dans la vie, c'est toujours son hypersensibilité qui la guide, qui la nourrit. Entretien avec Marie-Cécile Abrèche l'autrice de la fiction de Nouveau Projet 24. On t'a connue avec Borderline, ton premier roman paru au Boréal il y a déjà 2 décennies. Au moment d'écrire ça, tu avais une vie bien différente de celle que tu as aujourd'hui. Tu résidais en ville, tu sortais souvent dans les bars et tu chantais même dans un groupe de rock. Comment est-ce que la banlieue et la maternité t'ont changé? Oh boy! Disons que la banlieue ne m'a pas encore tout à fait eu. Disons que je suis encore en opposition. La banlieue, l'été, ça va. C'est beau, les arbres, les oiseaux, la piscine, l'air qui circule, les amis, le barbecue. Mais l'hiver, c'est l'enfermement. Personne dans les rues, tout le monde en voiture tout le temps, oh là là. Quant à la maternité, elle m'a eu de plein fouet. Je ne pensais pas devenir cette maman hélicoptère. C'est même trop, j'ai l'impression. Ma manière de me concevoir a totalement changé. Je suis une maman avant toute chose. Le thème de l'intimidation est au centre de ton récit d'autofiction qui sera bientôt publié dans l'édition papier de Nouveaux Projets. Comment ce sujet s'est-il imposé à toi? Mon fils est victime de ce fléau. Ça raconte pas mal ce qu'il vit, mais c'est traficoté, bien sûr. Et pour ce qui est de la mère du récit, évidemment, ça me ressemble. Je suis comme les champignons qui communiquent entre eux. Si mon fils ne va pas bien, je ne vais pas bien. Alors si des jeunes lui font du mal, j'ai mal. Pour lui, je suis prête à me transformer en maman ours. Mais comme je ne peux pas sortir mes griffes et aller faire peur aux petits maudits, j'écris des lettres aux professeurs, aux directions, aux techniciens en éducation spécialisée, TESS, aux parents. Je veux que mon fils soit bien et qu'il se sente en sécurité. C'est le minimum, non? Avec Un jeu d'enfant, l'histoire que tu as écrite pour nous, je sens que tu transmets un message aux adultes, aux parents des bullies, comme aux gens qui travaillent dans les écoles. À la lumière de tes observations, qu'est-ce que les grandes personnes pourraient faire pour que les enfants victimes de moqueries et de rejets arrêtent de souffrir? Eh bien, tout d'abord, il faut être attentif. Mon fils me parle beaucoup. Alors je n'ai pas eu à rechercher des signes chez lui que quelque chose n'allait pas. Mais j'imagine que ça doit être plus difficile pour les petits timides ou ceux qui ne savent pas dire les choses. Il faut les faire parler. Il faut les accompagner. Il faut aussi faire comprendre aux bullies que ce qu'ils ou elles font n'est pas bien. Leur faire lire des romans qui traitent de ça, leur montrer des pièces de théâtre, des films sur le sujet. En ce sens, les livres « Non à l'intimidation, j'apprends à m'affirmer » de Nancy Doyon et « Ben X » de Nick Balthazar ont beaucoup aidé mon fils. Et surtout, il faut que ce soit « tolérance zéro face à l'intimidation partout ». Quand tu t'es mise au monde comme autrice, les enjeux de santé mentale étaient très tabous au Québec comme ailleurs. On ne parlait pas de notre diagnostic ouvertement, alors que toi, tu en as littéralement fait le titre de ton roman. Tout un statement. Comment est-ce que ça a été reçu à l'époque? La critique et l'enthousiasme des lecteurs et lectrices était très positif, c'était encourageant. On me trouvait courageuse, on me disait merci de faire avancer cette cause, alors que dans le fond, écrire sur les fragilités mentales, je ne faisais ça que pour moi. Ce n'était pas du militantisme, mais juste mon besoin de raconter des bouts de ma vie. Mais je sais maintenant que j'ai aidé beaucoup de personnes atteintes de maladies mentales. En me lisant, elle se sentait moins seule. Comme je dis toujours, une souffrance partagée est une demi-souffrance. Ton plus récent livre, 225 mg de moi, en référence à la dose d'antidépresseurs que tu prenais jadis, est paru en 2021 chez Leméac. Les mentalités ont évolué depuis tes débuts, mais les pilules ont encore mauvaise presse. Que dirais-tu aux gens qui ont besoin d'en prendre, mais qui refusent de le faire pour des raisons idéologiques? Moi, les médicaments m'ont aidé et m'aident toujours. J'ai essayé longtemps de fonctionner sans eux, et ça ne marchait pas. J'avais beau me forcer, faire tout mon possible pour aller mieux, le nuage gris était toujours pas loin. Alors quand j'en ai eu assez de souffrir, j'ai dit oui à la médication qui, en passant, ne m'a pas totalement enlevé mon mal de vivre. Elle l'a juste rendu plus supportable. Mais pour répondre à la question, je leur dirais « Pourquoi souffrir ?» Avec Nelly Arcan, je pense que tu as ouvert la voie à beaucoup de jeunes femmes qui écrivent des romans d'autofiction. Que penses-tu de la Nouvelle Garde qui publie au Cheval Doux ou au Cartanier, par exemple? C'est drôle. L'auteur qui me vient en tête, c'est Francis Ouellette, mélasse de fantaisie, qui m'a dit qu'il y avait un peu de Marie-Cissy en lui, que j'étais sa pionnière, sa défricheuse. Ça m'a fait plaisir qu'il dise ça, parce que maudit que j'ai connu le milieu dans lequel il baignait. La rue Poupart est très proche de la rue d'Orion où j'habitais, et son école secondaire, Pierre Dupuis, était la mienne aussi. Je suis tellement contente qu'il y ait du bon stock qui sorte de ces quartiers malfamés. Justement, tu lis quoi cet été? Ces temps-ci, je n'arrête plus de lire. Par exemple, ces quatre derniers jours, j'ai lu deux romans. Danser sur des débris, de Chris Kraus, un auteur et réalisateur allemand. J'ai adoré cette histoire d'une famille hyper riche et hyper dysfonctionnelle. Et La carte postale d'Anne Beret, c'était bouleversant. On suit l'enquête que fait l'autrice sur sa famille tuée dans les camps de concentration. C'est vraiment très bien écrit, très bien ficelé. C'était Marie-Cissy Labrèche, la rockeuse devenue maman hélicoptère, une entrevue réalisée par Catherine Genet, parue le 15 août 2023 dans le magazine Nouveau Projet 24.